Ceux qui étaient là les dimanches précédents savent que j'ai commencé une série sur le prophète Élisée. Je remercie M. Blocher d'avoir pris la parole dimanche dernier pour assurer l'enseignement alors que j'étais absent. Nous continuons donc cette série et je vous invite donc à lire un récit dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4 à partir du verset 8. Deux Rois chapitre 4 verset 8 à 37. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là et se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, « Appelle cette Shunammite. » Géasi l'appela, elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se tint à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère !» Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'en prie, un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Mais pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui ? Je n'ai ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-la et marche, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Voici cette Shunammite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Vas-tu bien ? Et ton mari, va-t-il bien ? Et l'enfant, va-t-il bien ?» Elle répondit, « Oui, bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a cachée, il ne m'en a pas averti. » Alors elle dit, « Ai-je demandé, moi, un fils à mon Seigneur ? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Élisée dit à Géasi, « Mets une ceinture à terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. » La mère du petit garçon dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, « Le petit garçon ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voilà que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux pour prier l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant, Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains dans ses mains. Il resta courbé sur lui, le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là dans la maison, puis remonta, se courba à nouveau sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle la Sunamite. » Géasi l'appela, elle vint vers Élisée qui dit, « Voilà ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Jusqu'ici, notre lecture. Voilà un magnifique récit, un récit devant lequel il nous faut garder un cœur d'enfant et un attachement d'adulte à la vérité de la parole de Dieu. C'est l'histoire d'un enfant donné, d'un enfant repris et rendu à la vie. Une histoire touchante, bouleversante, qui finit bien. Tous les épisodes de notre vie n'ont pas systématiquement une fin heureuse comme celle de notre récit. Mais cela ne doit pas nous faire passer à côté du message de ce texte. Dieu a de la bonté pour qui espère en lui. C'est le titre que j'ai donné à ce message. Nous avons là un témoignage des ressources de la bonté de Dieu pour ceux qui s'attendent à lui. Et ce témoignage est vrai, ancré dans l'histoire. Il y a là un signe que Dieu a laissé au milieu de tant d'autres. Il nous appartient de recueillir et d'avancer au cœur de nos circonstances, enrichis et fortifiés. Mais ce récit nous met aussi en présence d'autres personnages, de plusieurs personnages dans un contexte un peu plus large que l'épisode de l'enfant. Il vaudra la peine de suivre au fur et à mesure ce que nous pouvons en recevoir. Tout commence, vous l'aurez remarqué, de manière très anodine. Un jour, Élisée passait par Sunem. Sunem est une petite localité au nord du royaume d'Israël, dans une vallée qui descend vers le Jourdain et sur la route qui montait vers le mont Carmel. Et vous avez vu qu'il était question d'Élisée qui était au mont Carmel, tout au nord du pays, sur la mer. Si Élisée passe par là, c'est que vraisemblablement, il faisait régulièrement des circuits dans différentes régions du pays d'Israël. Et probablement que ce jour-là, Élisée ne pensait pas s'arrêter spécialement à Sunem. Il passait par là, simplement. Mais voici qu'une initiative changera la donne et fera d'Élisée un habitué de l'endroit. Il est invité avec insistance dans une maison qui deviendra pour lui au fil des temps une étape, une base, un lieu de repos où il sera chez lui. Au départ de tout cela, une femme. C'est, nous dit le texte, une femme de haut rang. Elle est mariée. Elle trouve le moyen d'aborder Élisée quand il passe dans la ville. Et elle le presse, nous dit le texte, de venir prendre un repas dans sa maison. Tout dans le texte indique l'initiative, l'insistance même de cette femme. On sait que l'hospitalité est un devoir sacré en Orient, mais ici on a affaire à plus qu'un devoir. Cette femme va au-devant d'Élisée pour l'accueillir. Son but est très concret, elle veut qu'il puisse se poser, se restaurer. Elle ne cherche pas à gagner de l'influence, de la notoriété. La suite du récit la montre entièrement désintéressée lorsqu'il est question d'une faveur sociale qu'elle pourrait obtenir. Il est probable d'ailleurs que le fait d'inviter Élisée risquait de lui apporter plus de désagréments que d'approbation. On est dans le royaume du Nord qui a son propre culte et beaucoup d'idolâtrie. Malgré tout, même si Élisée a des contacts avec le roi Joram, c'est quand même un peu le bras de fer entre le roi et le prophète. On se souvient de l'accueil reçu par Élisée à Bethel, la ville sanctuaire du royaume du Nord, des petits jeunes qui s'étaient moqués de lui et qui l'avaient tourné en dérision d'une certaine façon. En le pressant comme elle le fait, cette femme se pose clairement en alliée, comme quelqu'un qui partage sa vision, qui partage les valeurs d'Élisée. Elle s'affirme de son côté, elle lui donne les signes d'un vrai soutien. Voilà ce que dit ce repas. Alors on aimerait savoir, bien sûr, ce qu'ils ont pu se dire pendant ce repas, ce qu'ils ont mangé éventuellement, mais surtout ce qu'ils ont pu se dire. Mais le récit est très sobre. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'Élisée, vraisemblablement, visiblement, a apprécié la démarche. Car à partir de là, nous dit le texte, toutes les fois où il passait, il se rendait chez elle. Cette fois-ci, c'est lui qui prend l'initiative et qui a la liberté du geste. Et pas juste une fois, par politesse, pour dire « tu m'as invité, je veux montrer que j'ai apprécié ». Non, non. Il a désormais un point de chute, un endroit où il sait qu'il sera reçu. Et du coup, cette femme fait partie de ses tournées. Il compte sur elle, il s'appuie sur son accueil. Ça lui permet peut-être de mieux organiser ses séjours. Et plus cela se fait, plus l'accueil et les rencontres prennent de la valeur. Comme plusieurs femmes le seront pour Jésus et pour l'apôtre Paul, cette femme devient une collaboratrice dans l'œuvre d'Élisée. Remarquez comment une initiative singulière, un repas, commence déjà à faire son effet boule de neige. On passe à une régularité, à un service qui devient un appui pour le prophète. La femme a proposé, Élisée a accepté de recevoir. Cela permet à la femme de réétirer ses services et la dynamique s'est mise en marche. Veillons, nous aussi, à ces relations en réciprocité, où l'on s'est donné, où l'on s'est accepté, où il y a des initiatives, où il y a aussi un accueil des initiatives. Remarquons aussi l'utilité des continuités. Aller au-delà de « je l'ai fait une fois, c'est bon ». L'œuvre de Dieu a besoin de ces dynamiques. Et j'aimerais remercier toutes celles, tous ceux qui, dans l'Église, manifestent ce genre de régularité qui construisent, sur lesquelles on peut s'appuyer vraiment. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Car voilà qu'une autre initiative germe dans le cœur de cette femme. Et si on lui offrait la possibilité d'une vraie étape, d'un vrai lieu qui lui appartienne, ici, là, dans notre maison? Alors elle consulte son mari, mais c'est clair qu'elle a déjà tout dans la tête. Elle parle d'une chambre haute qu'on pourrait construire là-haut sur le toit. Vous savez, les trois plats, ça offre pas mal de possibilités de construction éventuellement. C'est encore le cas aujourd'hui. Si vous allez dans les pays du Sud, vous découvrez, là où il y a des toits plats, toutes sortes de manières d'utiliser un toit plat. Alors, il y a parfois le pire, le ramassis de tous les ustensiles, des trucs, des réserves d'eau moches comme tout, etc., jusqu'aux choses les plus agréables, des espaces pour prendre le soleil, pour s'en protéger, etc. Ici, la femme tsunamite parle d'une chambre haute en dur. Littéralement, une chambre haute de mur. Pas juste un abri vite fait. Quelque chose de solide, qui dure. Et elle a tout pensé. Le lit, la table, la chaise, la lampe. Ça, c'est vraiment une initiative de femme, dans le meilleur sens du terme, qui va jusqu'au bout du plus concret. Monsieur a l'air d'être d'accord, et le projet se réalise. Et voilà désormais Élisée avec un vrai pied-à-terre. Rappelons juste ce que cela pouvait signifier. À une époque où on n'avait pas de voiture, à une époque où chaque kilomètre se faisait à pied, diviser certaines distances par deux, par trois, c'était quand même inestimable. Et puis, il y a ce côté privé, ce cadeau d'un lieu à soi. Pour un homme public, c'est inestimable. Pour un homme qui a besoin aussi de calme devant Dieu, c'est inestimable. La femme, visiblement, respecte ce besoin qu'a Élisée de s'appartenir. Elle ne profite pas de l'avoir sous son toit ou sur son toit pour l'accaparer. C'est remarquable de sa part, et pour Élisée, c'est vraiment un grand service. Et tout cela est parti d'un simple repas. D'initiative en réciprocité, les choses ont progressé. Et il ne s'agit pas là d'un engrenage où, parce qu'on a donné le petit doigt, on se fait prendre toute la main puis le bras entier. C'est plutôt une initiative qui devient un partenariat et une utilité qui est joyeusement assumée. Gardons ce modèle devant les yeux, parce que c'est ainsi que se construit l'Église, c'est ainsi que se fait l'œuvre de Dieu, dans ses initiatives joyeusement assumées et qui peuvent vraiment faire avancer les choses. Le Nouveau Testament a une belle expression pour exprimer ce genre de dynamique. C'est l'expression « les uns les autres ». Cela dit ce mouvement en réciprocité, où chacun apporte à l'autre, et où ce qui est fait, pensé par l'un, rejaillit sur l'autre. L'œuvre de Dieu a besoin de ces dynamiques-là. Elle lui donne un vrai souffle, un bel élan. C'est tout autre chose que lorsque chacun se fait prier et traîne les pieds. Et c'est bien d'observer cela. À quoi cette femme a-t-elle été sensible? Visiblement, elle a le sens des choses pratiques, on l'a vu. Mais elle a tout autant le sens des valeurs spirituelles. Lorsqu'elle motive son projet devant son mari, elle donne ce qui est important pour elle. Elle dit « Je sais que cet homme, Élisée, est un saint homme de Dieu. Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. » Cette expression « un homme de Dieu » peut se comprendre de plusieurs manières. Il y a un sens assez courant où parler d'un homme de Dieu est une autre manière de désigner un prophète ou un homme envoyé par Dieu pour une tâche particulière. C'est ce qu'on pourrait appeler le sens fonctionnel de l'expression. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, qui a une mission reçue de la part de Dieu. Mais on emploie aussi ce terme, un homme de Dieu, en relation avec certaines figures, de manière plus large. Moïse, homme de Dieu, David, homme de Dieu. Là, c'est le témoignage de toute une vie, le témoignage d'une relation avec Dieu, le témoignage que l'on rend d'hommes que Dieu a utilisés parce qu'ils se sont laissés modeler par lui, parce qu'ils étaient à sa disposition, parce qu'ils étaient remplis de sa présence. Lorsque la femme parle d'Élisée, c'est dans ce sens-là et avec cette sensibilité. Pas juste le côté fonctionnel de quelqu'un qui est appelé au service de Dieu, mais vraiment, elle est touchée par toute la profondeur de vie avec Dieu qui porte le fonctionnel et qu'elle discerne chez Élisée. Et c'est pourquoi elle dit « Il est un saint homme de Dieu ». C'est à cela qu'elle a été sensible, à sa proximité avec Dieu, sa relation avec Dieu, sa consécration pour le Seigneur. Et c'est cela ce qu'elle a voulu favoriser aussi en lui donnant cette chambre bien à lui. Et on voit combien chez elle, le spirituel et le concret, le spirituel et le pratique ne s'opposent pas, mais sont alliés. Elle veut, par un service pratique qu'elle rend, permettre à Élisée d'approfondir sa relation avec Dieu et le service qui en découle. Elle devient partenaire et soutient ainsi d'Élisée, homme de Dieu. Alors, le Nouveau Testament emploie cette expression « homme de Dieu » à deux reprises. Il me semble que l'une a une nuance qui me semble plus fonctionnelle. Lorsque Paul demande à Timothée, « Toi, homme de Dieu, fuis ces choses, l'amour de l'argent, les passions, etc., et recherche la justice, la piété, la foi, la patience, la douceur. » Il me semble qu'ici, quand on dit « Toi, homme de Dieu, fuis ces choses », on parle du fonctionnel pour aller vers la vie. Parce que tu es là, tu es un homme de Dieu, parce que c'est là ta fonction, ce à quoi Dieu t'appelle, veille à cela et vit d'une façon conséquente. Et je crois que c'est indéniable de dire qu'une responsabilité nous tire vers plus de dépendance, vers plus d'exigence spirituelle. Parce qu'on accepte des responsabilités pour Dieu, il faut que le reste suive. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est bon d'accepter certains défis de responsabilité dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Cela nous porte plus loin avec Dieu. On en a besoin. Mais là on part du fonctionnel pour dire il faut que ça suive vraiment dans la vie concrète de tous les jours. C'est une première dynamique. Mais il y a un deuxième texte dans le Nouveau Testament qui parle d'être homme de Dieu. Et je précise juste que dans le langage du Nouveau Testament, le mot « homme » dans le Nouveau Testament est délibérément générique. Ce n'est pas l'homme masculin distinct de la femme, mais c'est l'homme comme être humain. On peut donc parler d'homme ou de femme de Dieu, pour rendre le sens de l'expression, pour rendre justice à cette expression au sens du Nouveau Testament. Et ce deuxième texte se trouve dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Et là, c'est le rôle de la parole de Dieu que de former, de modeler des hommes et des femmes de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 et 17, Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, l'homme et la femme de Dieu, soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. L'homme ou la femme de Dieu sont ici des personnes qui sont enseignées, modelées, corrigées, formées par l'Écriture, qui sont convaincues aussi par tout ce que dit l'Écriture, et qui de ce fait vivent près de Dieu, en harmonie avec lui pour le servir, et qui sont donc des outils disponibles, bien utilisables par le Seigneur, propres à toute bonne œuvre. Et il y a là un appel pour chacun de nous, un bel objectif, pouvoir être un homme, une femme de Dieu, dont il pourra se servir quand il le désire et comme il le désire. Et c'est vraiment tout l'appel à nous laisser modeler jour après jour par la parole et dans la présence de Dieu. Mais il nous faut continuer notre récit. Car de cette belle harmonie entre Élisée et cette femme sunamite résultera un magnifique cadeau de Dieu. Élisée aura à cœur de remercier cette femme en mesurant la bénédiction qu'est pour lui ce qu'elle lui apporte et cette chambre qu'elle lui a construite. La femme ne veut rien, reconnaissante de ce qu'elle a déjà. Élisée persévère dans son désir de reconnaissance. Il cherche ce qu'on pourrait faire. Et cette fois-ci, on voit que c'est Élisée qui presse, qui a l'initiative. Et quand son jeune serviteur, Géasi, lui souffle qu'elle n'a pas d'enfant et que son mari est déjà vieux, c'est clair pour Élisée. Et il lui annonce à cette femme, comme l'ange l'avait fait à Sarah, à cette même époque, l'an prochain, tu embrasseras un fils. Cette parole d'Élisée est une affirmation forte, une affirmation prophétique qu'il prononce certainement suite à une connaissance très claire qu'il a reçue du Seigneur ou à une conviction forte que lui a donnée l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas juste son initiative à lui qui lui fait dire cela. Et ce qui veut dire que cette parole, cette promesse, l'an prochain tu embrasseras un fils, en reconnaissance pour ce qu'elle a fait, cette parole exprime donc autant l'initiative d'Élisée que la générosité du Seigneur. Les deux se conjuguent dans un même mouvement. Et il est utile pour nous de voir aussi au travers de cela la façon dont Dieu apprécie ce que nous faisons pour lui. Elle a cherché à faire quelque chose pour lui, pour son œuvre, pour le prophète. Et Dieu apprécie. Et c'est Dieu lui-même qui veut la récompenser. Et qui lui dit, l'an prochain, tu auras un fils. Dieu n'est pas ingrat. Élisée marque sa reconnaissance, mais le Seigneur aussi. Est-ce que ce que le Seigneur reçoit de notre part suscite en lui un désir de nous faire encore du bien, de nous bénir encore en plus? Dieu est amour, et cet amour est toujours prêt à s'éveiller, à se dire en générosité nouvelle. Dieu n'est pas un absolu centré sur lui-même, hein, mais tout réveille son amour. Et on a ici une très belle illustration de ce que signifie recevoir du Seigneur au centuple de ce qu'on lui a donné. Le Seigneur, en lui faisant cette promesse d'un enfant, va bien au-delà de ce qu'elle a tenté de lui donner. Le Seigneur est ainsi généreux pour les siens. Et il est bon pour nous de le voir. N'imaginons jamais un Dieu insensible à ce que nous lui apportons ou qui est juste sur un mode de dire « je reçois, c'est normal ». Élisée propose donc à cette femme, promet donc à cette femme qu'elle aura un fils. Et la réponse de la femme à cette promesse révèle qu'il a touché un point sensible, un point douloureux de sa vie. Non, homme de Dieu, non, ne déçois pas ta servante. Pourquoi cette réponse? Manque de foi? Non, ce n'est pas cela. Elle a trop attendu. Elle a trop espéré. Elle a trop de fois espéré. Trop de fois été déçue. Trop de fois elle a eu mal d'avoir tant espéré. Elle a trop peur maintenant d'avoir mal une fois de plus. Comme l'espérance est violente dit Apollinaire dans l'un de ses poèmes. Et c'est vrai parfois. L'espérance est en général douce et bienfaisante, mais face à une souffrance installée et répétée, s'éveiller à l'espérance, c'est se rendre vulnérable à nouveau, là où il a fallu quand même un peu se durcir en prendre sur soi pour se protéger. Et c'est pourquoi elle dit non, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Et ça montre qu'il nous faut être attentifs parfois avec ces paroles légères tout en miel que l'on peut dire à des gens qui traversent des choses difficiles. C'est pas juste une parole bienfaisante, positive qui va tout éveiller d'un coup, parfois. Il faut se rendre compte du cheminement que cela peut impliquer chez les autres. Je trouve très bienfaisant qu'Élisée ne fasse pas de reproche au nom qu'elle a opposé à sa promesse. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir que c'est le Seigneur qui va prendre en charge toute la suite. Et c'est ce texte où c'est le Seigneur qui finalement conduit les choses ensuite, nous dit que le Seigneur comprend ces domaines où on ne peut pas juste exploser de joie parce qu'on a reçu une bonne parole. Il comprend nos cheminements profonds et il sait faire sa part pour supplier ce que nous ne pouvons pas toujours faire pour nous ouvrir à l'espérance. Mais en même temps, ce texte nous dit qu'une douleur même ancrée n'est pas pour Dieu une impasse. Il a ses moyens pour créer des ouvertures là où nous n'espérons plus. Il est bon alors, comme le dit Jérémie, de savoir attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est lui qui montre, qui trace le chemin, et on peut ainsi s'éveiller à nouveau à l'espérance parce que l'on voit ce qu'il fait, parfois petit à petit, parfois nettement, comme au moment où cette femme devient enceinte. Le Seigneur nous ouvre à l'espérance, même si parfois ce n'est pas évident de notre côté. Le récit ensuite va très vite. En un verset, on couvre des années de bonheur, de joie partagée avec cet enfant don de Dieu qui est là, qui grandit, qui se met à parler. Et voilà qu'un jour, c'est le drame. Un mal de tête violent saisit le petit qui accompagne son père dans les champs en pleine moisson. Quelques heures plus tard, ce petit meurt sur les genoux de sa mère. Si on essaye de comparer un peu le cadre chronologique qui encadre tout le récit, le petit a 4-5 ans, pas plus probablement. 4-5 ans, pas plus. Et voilà qu'après la bénédiction magnifique, inespérée qu'il représentait, c'est la douleur, l'incompréhension les plus épouvantables. Où est le Seigneur? Que fait-il donc? Quelles sont ses voies? Pourquoi tout ça? Le texte souligne l'exigence terrible d'une telle situation, mais les ressources de Dieu aussi, malgré cette exigence imposée. L'exigence, c'est d'abord, en plus, bien sûr, de la douleur et de l'incompréhension totale, la solitude. Cette femme est seule. Le petit est mort dans ses bras. Elle va le déposer sur le lit de l'homme de Dieu. Elle rejoint alors son mari, qui est en pleine moisson. Elle lui dit, je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Donne-moi un serviteur et une ânesse. Son mari ne fait pas le lien avec l'enfant. Il ne pose même pas de questions sur le petit. Il est trop occupé par son travail. On est en pleine moisson. À sa décharge, il est resté sur quelque chose qui probablement lui a semblé anodin. Le petit qui lui avait dit « j'ai mal à la tête, un mal de tête d'enfant ». Il s'étonne de ce voyage. Il est complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas un jour de sabbat ni de nouvelle lune. Il est décalé. La femme est seule avec son drame. Et elle décide de rester seule. Face à au grand décalage, elle lui dit « tout va bien ». Le mot qu'elle emploie, c'est le mot « shalom », « shalom », « paix ». Tout est en paix. Tout est en paix. Sauf que tout va mal. Sauf que le petit est mort. Et que Dieu est un grand point d'interrogation. Elle va pourtant chez l'homme de Dieu, Élisée. Celui qui a adouci les eaux amères de Jéricho. Celui par qui, elle le sait, une veuve a été secourue au temps de la détresse. Est-ce que cette démarche qu'elle veut faire auprès d'Élisée a un lien avec ce mot qu'elle emploie, tout est en paix? Y a-t-il là une ressource dont elle attend quelque chose et qui peut malgré tout lui laisser une petite qui fond de sérénité, d'espérance, un fil d'espoir là où tout semble cassé. C'est en tout cas ce que ses gestes semblent dire. Elle ne perd pas espoir tant qu'elle peut encore avoir recours à Élisée, l'homme de Dieu. Et là, dans le récit, on voit quand même quelque chose qui est très intéressant. Dans toute cette séquence où elle est en train d'aller vers Élisée, entre la mort et le moment où elle va vers Élisée, ce qui est très intéressant, c'est que jamais Élisée n'est appelée par son nom dans le récit. C'est systématiquement l'homme de Dieu qui est employé dans le récit. 6 fois, dans ces quelques versets, dans ce paragraphe, on parle de l'homme de Dieu. C'est donc en tant qu'homme de Dieu qu'elle va vers lui. Ça indique où se trouve son attente encore, et malgré tout, confusément, mais obstinément. Élisée envoie Géasi à sa rencontre lorsqu'il l'aperçoit. Il l'interroge si tout va bien. Et de nouveau, les mots, c'est « Shalom, si tout est en paix ». Toi, ça va ? Shalom pour toi ? Et shalom pour ton mari et pour ton enfant, ton petit ? Elle tient la ligne devant Géasi qui lui pose des questions. « Oui, tout est en paix, shalom. » Jusqu'au moment où elle arrive devant Élisée. Là, elle tombe à ses pieds. Elle saisit, elle étreint les pieds. Et c'est là qu'elle craque, que tout sort. « Est-ce moi qui t'ai demandé un fils ? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper par une telle promesse ?» Tout est dit en quelques mots. Des mots en forme de questions, mais des questions tout en douleur. Qui dit son désarroi, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le sens de tout ça ? Elle ne dit rien de plus, mais il est clair qu'elle se décharge d'une certaine façon de son fardeau sur Dieu. Elle se décharge de son fardeau sur l'homme de Dieu. C'est toi qui as eu l'initiative de tout cela, de cet enfant. C'est à toi d'apporter une action, une réponse, quelque chose. La suite du récit montre l'action de Dieu, mais en même temps, il me semble, quand on y regarde de près, parce que c'est ce que j'ai trouvé moi, qu'elle bouleverse toutes les idées qu'on se fait d'Élisée, homme de Dieu et faiseur de miracles à tour de bras, sans problème, sans état d'âme. C'est très intéressant d'observer la façon dont Élisée est impliquée dans ce drame. D'abord, Élisée est pris de court par la situation. Il le dit à Géasi, quand il voit la peine de cette femme, il dit « Elle a quelque chose et le Seigneur ne m'en a pas averti. » Il lui faut donc lui aussi assumer le choc, recevoir la nouvelle en pleine figure et sans avoir de révélation de Dieu sur ce qui va se passer. On ne peut pas lire la fin à partir de ce moment-là. Et Élisée reçoit le choc de la situation. Et toute la suite de l'histoire montre Élisée qui est conduit, qui est obligé de devenir un compagnon d'épreuve et un compagnon de foi pour cette femme. Et c'est à lui qu'il revient d'affronter la difficulté dans la foi. Tout le montre. Il envoie Géasi, son serviteur, avec un bâton, pendant que lui fera le chemin avec la femme. Et il court. Géasi, il met le bâton sur le visage de l'enfant et rien ne se passe. Et le résultat, c'est ça. Le petit garçon ne s'est toujours pas réveillé. Lorsque Géasi revient vers Élisée, la femme, elle est là, elle entend cela aussi, la nouvelle. Et c'est à Élisée d'en prendre sur lui pour continuer et pour aller, lui, à la rencontre du petit. Certes, la femme et Géasi prient aussi, certainement, mais il doit montrer la voie. Il entre dans la chambre où se trouve le petit. Entre-temps, il a eu l'occasion de prier, de penser aux voies de Dieu, chercher quelques repères, l'action passée de Dieu. Il s'est souvenu certainement d'Élie, qui avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Et fort de cette mémoire, il agit comme Élie. Il prie, il se courbe, il prend l'enfant contre lui, il prie intensément, le visage contre le visage de l'enfant, ses mains dans ses mains. Il est impliqué de tout son être, de toute sa prière. Mais là encore, rien d'immédiat. Rien de magique. L'enfant se réchauffe, mais c'est peut-être juste le contact du corps d'Élisée. Le récit nous dit à ce moment-là, Élisée sort de la pièce, il dépose l'enfant. Il va ça et là dans la maison. Vous l'imaginez là, Élisée marcher avec ça, avec ce qu'il a vécu, Seigneur, Seigneur. C'est le temps de la supplication, le temps de la persévérance dans la prière. La femme est là, qu'il a vu sortir certainement. Il retourne dans la pièce. Il reprend le petit contre lui, dans ce corps à corps, cette prière intense. Et là, enfin, c'est la réponse du Seigneur. Le miracle. L'enfant respire, éternue, cette fois. Les plus merveilleux éternuements du monde. La vitalité du souffle qui s'affirme. C'est fort, hein, l'enfant, quand il éternue. Hein. Et c'est le message magnifique qu'on peut enfin faire parvenir à la femme. Voici ton fils, prends-le. La femme a ce geste magnifique de se prosterner dans l'adoration et la reconnaissance à Dieu avant de prendre son fils revenu à la vie. Et à ce magnifique contraste entre le prosternement de douleur quelques heures auparavant devant Élisée, au pied d'Élisée, et maintenant le prosternement d'adoration et de reconnaissance face à l'œuvre de Dieu. Mais entre les deux, il a fallu la foi solidaire, celle de la femme en attente, celle d'Élisée pour puiser auprès de Dieu toutes ses ressources, pour agir, pour s'impliquer. La foi qui affronte la surprise, le drame, l'incompréhension. La foi qui cherche en Dieu le recours que seul il peut apporter. La foi qui persévère dans la prière. La foi qui tient, même quand tout ne se résout pas d'un coup. C'est à cette foi que nous sommes appelés, nous aussi, dans nos différentes situations. Nous n'avons pas la clé de tout ce que nous vivons. Nous pouvons connaître parfois aussi le désarroi devant les voies de Dieu. Mais ce récit nous dit que Dieu garde des ressources pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui gardent la foi, comme le dit l'apôtre Paul à la fin de sa vie, « J'ai gardé la foi ». Et la mesure de ces ressources de Dieu, c'est bien plus que ce que nous pouvons penser ou imaginons. Gardons ce regard sur notre Dieu toujours. Mais j'aimerais souligner que ce récit porte aussi un message de solidarité. Portons ensemble les situations qui surviennent, comme l'ont fait remarquablement cette femme, Élisée et Géasi, son serviteur. Soyons solidaires de tout. Solidaire dans le service, comme lorsque cette femme a accueilli Élisée pour lui donner à manger, lui faire une chambre. Solidaire dans les épreuves. Tenons bon ensemble. Fortifions-nous mutuellement dans le Seigneur. Il y a là aussi une vraie source de richesse et de délivrance à expérimenter. Un tout dernier mot à propos de ce miracle de résurrection. Et moi, juste dire que Dieu nous a donné par la résurrection de Jésus-Christ, un miracle encore infiniment plus grand que celui dont nous voulons faire le récit. Un miracle en Jésus-Christ porteur d'une espérance infiniment plus forte encore et à la portée infiniment plus lointaine. Car la résurrection de Jésus est la victoire définitive sur la mort et sur sa puissance de condamnation. La résurrection de Jésus, elle, n'est pas simplement une résurrection individuelle, mais elle est le gage de millions et de millions de victoires sur la mort lorsqu'il reviendra en gloire. Et ce jour-là, nous nous prosternerons aussi devant lui, éperdus de reconnaissance, éblouis de découvrir l'ampleur de sa victoire, la beauté de son triomphe. Ce jour-là, rendu à ceux qui nous ont précédés et qui ont aimé le Seigneur, nous pourrons dire avec un infini contentement, tout est en paix, tout est en paix, shalom, oui Seigneur, grâce à toi. Jésus venu vers nous, Jésus mort pour nos offenses, ressuscité pour notre salut éternel, il est notre paix. Ce qu'il a été, ce qu'il a fait pour nous, rien ni personne ne peut le changer. Rien ni personne ne peut nous le ravir. C'est inscrit dans l'histoire. C'est une étape acquise du plan de Dieu. C'est la mesure de ce que Dieu tient en réserve pour les siens. La femme a eu pour recours Élisée, homme de Dieu. Notre recours à nous, c'est Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Il est le recours. Il est la mesure du don et des ressources de Dieu. Alors oui, nous pouvons recevoir et dire ces paroles de l'apôtre Paul, Éphésiens 3, versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.